paroi. La première perle ? Ah, les salauds, ils nous l'ont fait attendre. On a dû patienter 11 mois pleins avant de remettre les pieds chez nous et avant que ces pourris de galonnés se souviennent que, nous aussi, on avait une femme et des gosses, et une ferme en plus. D'ailleurs, s'ils nous l'ont accordé, cette première perme de 8 jours, c'est du bout des lèvres, et principalement à nous, les paysans. Parce que c'était l'époque des moissons, et qu'ils savaient bien qu'on en mettrait un coup pour mettre le blé à l'abri et nourrir ainsi tous les planqués de l'arrière. Tous ces fumiers de mercantis qui s'engraissent pendant qu'on crève. Ah, cette première permission. Il en conservait d'abord le souvenir précis de son attente pendant les quelques 3 semaines qui l'avaient précédée, lorsqu'en juin 1915 avait couru le bruit que certains vénards, dépistonnés sans doute, avaient déjà pu rentrer chez eux pour 8 jours. Puis était venu le décompte, puisqu'il fallait partir à tour de rôle et toujours laisser le maximum d'hommes susceptibles de refouler une attaque et par là même de se faire crever la panse. Enfin, il avait reçu son billet et, tout gauche, sale et déguenillé, il avait pris le train avec Édouard. Le 326e de ligne était alors cantonné à Naour, au nord d'Amiens. Et l'un et l'autre gardaient un mauvais souvenir des quelques heures qu'ils avaient passées au contact des civils en attendant leur correspondance pour Brive. Déjà, même à Amiens, pourtant près du front, ils avaient été frappés par l'abîme qui séparait les lignards comme eux de tous les gens de l'arrière. Ceux-ci semblaient ne pas bien mesurer à quel point leur teint fleuri, leurs vêtements propres et même beaucoup de leurs propos étaient déconcertants pour ceux qui, depuis 11 mois et presque sans discontinuer, venaient de survivre face à l'ennemi, le plus souvent dans d'épouvantables conditions. Quant à l'esprit qui régnait à Paris, à son animation et cette sorte d'exubérance qui planait partout, Jean, autant qu'Édouard, en avait été choqué. Gêné aussi par le prétendu patriotisme que maintes élégantes feignaient d'afficher en s'affublant de robes et fanfreluches aux couleurs du drapeau. Et il sautait aux yeux que la présence incongrue de certains jeunes, repus et en bonne santé, au café ou sur les grands boulevards, n'était due qu'aux quelques hautes relations dont ces hommes savaient user pour être toujours là, à se pavaner, et non au front, face à l'ennemi. Gênés et conscients que leur tenue et leur crasse attiraient sur eux des regards critiques et même désapprobateurs, plutôt que de poursuivre leur flânerie dans Paris, Édouard et lui avaient préféré rejoindre la gare d'Orléans pour y attendre leur train. Là, au moins, au milieu des autres permissionnaires qui semblaient aussi décontenancés qu'eux, ils s'étaient sentis beaucoup plus à l'aise. C'est vrai, là, on était entre nous, entre hommes, et il n'y avait pas d'embusqués. Et on n'avait pas honte d'être si sale et fatigué. On savait tous pourquoi on était dans cet état. N'empêche, 11 mois sans avoir pu revoir les nôtres, c'était pas humain. Et quand je pense que ce pauvre bougre d'Édouard n'avait toujours pas vu son fils, lui qui, au début, avait peur qu'il ait ses premières dents quand il ferait sa connaissance. Ah oui, parlons-en des premières dents du gosse. Quand on a eu notre perme, Français avait écrit 15 jours plus tôt que le gamin venait juste de faire ses premiers pas. Quant à moi, il gardait de ses retrouvailles avec les siens, en cette lumineuse et chaude fin d'après-midi de juillet, le souvenir poignant d'avoir d'abord beaucoup intimidé ses enfants. Puis, il avait compris que ceux-ci ne le reconnaissaient pas, ou très mal, et qu'ils avaient peur de se précipiter vers lui avec leur habituel et rafraîchissant enthousiasme juvénile. Il s'était alors souvenu qu'il était sale, amaigri, parasé depuis des jours, plein de poux et de vermine, que ses cheveux beaucoup trop longs et maintenant gris les surprenaient, que son regard à la fois dur et perdu les tenait à distance et qu'il n'osait sauter dans ses bras. Même sa mère et sa grand-mère avaient mal caché le choc qu'elles ressentaient en ne retrouvant pas en lui l'image qu'elles en avaient gardée. Seule Marthe l'avait accueilli avec toute la fougue et l'amour dont elle était capable. Mais les premières effusions terminées, elle avait compris qu'il devait avant tout se laver, se décrasser, s'épouiller, se débarrasser de cette puissante odeur qu'il traînait. Cette sorte de douceâtre fétidité, toute chargée d'effluves de terre et de poussière, de boue sèche, de poudre, de sueur, de mort. Alors, comme toujours, elle avait réagi, fait pour le mieux. « Vous, les enfants, allez surveiller les brebis dans la bouigue, et ne revenez surtout pas tant que je ne vous aurai pas appelé. » Vous, mère, et vous, mémé, activez-moi le feu et faites chauffer de quoi remplir une comporte d'eau. Tu vas voir, avait-elle ensuite murmuré en lui caressant le visage. Je vais te rendre tout propre, tout beau comme avant. Mais pendant que l'eau chauffe, tu vas te raser, et moi, je vais te couper cette tignasse. Vous n'avez pas de coiffeur là-bas? Et pas de ciseaux non plus? Si, si, mais ces dernières semaines, on n'a pas eu le temps de penser à ça. Plus tard, alors qu'il venait d'entrer, nu, dans la comporte pleine d'eau chaude, Marthe avait aussitôt remarqué la longue et sinueuse cicatrice rougeâtre de plus de 20 cm qu'il portait sur le mollet droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, juste une griffure. Je me la suis faite dans les barbelés en février, du côté de Bacone. Tu aurais pu me l'écrire? Ah, quoi bon, tu te serais inquiété. C'était rien, plus grave pour mon pantalon que pour ma viande. C'était faux. Mais il n'avait pas voulu lui dire à tel point que la plaie était profonde et douloureuse. Très laide aussi, car pleine d'une boue épaisse que le sang qui coulait pourtant à flots ne parvenait pas à chasser de la chair déchiquetée. Mais ce n'était rien par rapport aux blessures par balles ou éclats reçus par certains camarades. D'ailleurs, il ne s'était même pas présenté à l'infirmerie, conscient que son état ne méritait pas qu'un médecin perde son temps avec lui. Tous avaient tellement mieux à faire. Tout au plus, et dès qu'il avait pu, s'était-il versé sur le mollet un quart de bidon de cette eau-de-vie infâme que certains margoulins proches du front vendaient à des prix prohibitifs. Bien lui en avait pris, car peu de temps après, il avait appris de la bouche de son ami Fraisse, toujours infirmier, que deux de ses camarades, déchirés comme lui, le même jour et dans le même secteur, étaient morts du tétanos. Alors, à quoi bon raconter toutes ces horreurs à Marthe? N'empêche, c'est une belle estafilade, avait-elle dit en lui caressant le mollet. Puis, après l'avoir savonné des pieds à la tête, elle l'avait vigoureusement passé à la brosse en chien-dent, jusqu'à ce que sa peau en devienne rouge et qu'il demande grâce. C'est en enfilant ses habits civils qu'il avait enfin commencé à retrouver une sorte de bonheur, une quiétude oubliée depuis des mois, et il avait cru sa fatigue envolée. C'est plus tard, alors que Marthe et lui venaient de se mettre au lit et qu'elle était là, toute proche et amoureuse, qu'il avait mesuré à quel point son épuisement était grand, écrasant. D'habitude, tu laissais toujours un peu de lumière. Les enfants dorment. Tu ne veux plus me voir? Tu as peur que je sois devenue laide? Lui avait-elle reproché dès qu'il avait étouffé la lampe à pétrole. Mais non, pas du tout. Tu es toujours aussi belle. Mais je suis mort de fatigue. Je sens que je vais être bon à rien. À rien. Pardonne-moi. Et il était vrai que la fatigue le paralysait, annihilait tout désir, mais elle n'était pas la seule responsable de son état. Là, dans la chambre, malgré le corps si doux de sa femme pressé contre lui, venait de renaître d'indélébiles et inoubliables visions de guerre, d'horreur. Trop de fantômes, d'amis disparus, trop de cris de douleur, trop de râles d'agonisants, trop de bruits d'explosions et de pilonnages, trop de peur et de cadavres. Non, laisse-moi, je te dis que je ne suis bon à rien ce soir, avait-il protesté lorsque les mains et les lèvres de Marthe s'étaient faites douces et câlines. Bon à rien, crois-moi, juste bon à dormir, simplement dormir. Demain, ça ira mieux, enfin j'espère. Ne m'en veux pas, mais il faut que je dorme. Sûrement pas, avait-elle chuchoté, et il avait alors pensé qu'elle souriait de son lumineux et espiègle sourire. Sûrement pas, avait-elle poursuivi. Ce soir, et comme depuis que tu es partie, c'est moi la patronne, alors laisse-moi faire. Tu dormiras tout à l'heure, mieux, mais après. Il y a 11 mois que j'attends cette nuit, et je veux qu'elle soit réussie. Ce soir, c'est moi la patronne, avait-elle répété en se glissant sur lui. Et elle l'avait été. La patronne, elle me l'a prouvé en tout, se dit-il avec un pincement au cœur. Et au risque de sombrer dans le désespoir, il se laissa emporter par l'évocation de ses 8 jours de permission, de ses retrouvailles avec ce minuscule horizon de la ferme des Combettes. Ce lieu qui, malgré la guerre, était paisible et un peu égoïstement loin du drame pour une semaine. Car ailleurs, pour beaucoup, à Costeblanc et dans les bourgs et villages environnants, contrairement à